الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من شفاق الإسلام remercions الله سبحانه وتعالى qui nous donne la possibilité de reprendre donc ces programmes. On avait repris le 13 septembre, mais après il y avait différents programmes, hein, différents concours de circonstances qui ont fait qu'on a dû encore interrompre. Il y avait, alhamdoulilah, le concours qu'on avait organisé par la grâce d'Allah et qui a permis de désigner 10 gagnants. Et parmi ces 10 gagnants, donc, alhamdoulilah, il y a deux personnes qui vont aller au Hajj cette année. Ils vont y aller dans une dizaine de jours. Et entre autres, il y a le garçon de Mouna Saïd, il y a Mufti Lukman, il y a un jeune de Saint-Denis, enfin un jeune de nos moussalis de Saint-Denis, Hafez Yaqoub également, Bobat qui ira, inshallah. Et alhamdulillah, il y a eu également d'autres avancées par la grâce d'Allah. Cette année, inshallah, on aura également trois personnes qui seront invitées donc par le roi pour faire le Hajj, représentant la délégation de la Réunion. Ce sont donc là de grands ni'mat, de grandes avancées pour la Réunion et pour toutes les générations qui vont venir par la suite, inshallah. Donc on a dû interrompre par rapport à ça, et puis il y avait également, alhamdulillah, les personnes qui sont venues délivrer les visas à la Réunion. Ça aussi c'est une grande faveur de la part d'Allah que de nos jours nous pouvons accueillir des diplomates qui délivrent les visas pour chaque personne à la Réunion qui veut faire le Hajj. Ça également c'est une avancée qu'on doit essayer de conserver pour que le pèlerinage devienne de plus en plus accessible aux personnes, qu'il y ait de moins en moins de difficultés. Alors, on s'était arrêté, on avait commencé plutôt la dernière fois, on avait terminé le chapitre concernant les péchés et leurs conséquences au jour des comptes. On rappelle que depuis plusieurs mois, ou depuis peut-être un an ou un peu plus, on avait commencé à parler de l'au-delà et du mahshar, la résurrection. Et parmi les étapes de la résurrection, on avait commencé à parler du hisab, des comptes. Et quand on parle des comptes, on comprend bien, c'est les conséquences des actions. Et donc on avait divisé les actions en deux, les bonnes et les mauvaises, et on avait procédé de la sorte. Tout d'abord, en première partie, on avait abordé les péchés et leurs conséquences le jour des comptes. Et ça, alhamdoulilah, on a pu traiter, on a pu passer en revue beaucoup de péchés, une certaine quantité de péchés. Et aujourd'hui, inshallah, on va commencer un chapitre un peu plus attrayant qu'on avait démarré il y a trois semaines. C'est les bonnes actions et les récompenses le jour des comptes. Les bonnes actions et les récompenses le jour des comptes. Parce qu'il est extrêmement important pour un musulman de savoir qu'est-ce qu'il obtient en faisant de bonnes actions. Tout comme il doit savoir quelles sont les conséquences des péchés. Quand une personne a envie de faire quelque chose qui est haram, il est important que la personne ait connaissance des conséquences de ce péché. On va essayer de se rapprocher un petit peu parce que j'ai l'impression d'être dans le vide là, quand il y a trop d'espace, et puis qu'on se rapproche à la baraka également. Donc, quand une personne est tentée de faire un péché et que nous on a la possibilité de lui faire un rappel, avec sagesse bien sûr, alors parmi les points qu'il faut rappeler à la personne, c'est les conséquences des péchés le jour de Qiyam. Qu'attention, tel péché a telle conséquence, Allah Ta'ala agira de la sorte avec toi le jour de Qiyam. Ou alors si c'était un mal qui a été fait à l'attention d'une personne, la personne reviendra revendiquer l'oppression qui a été faite à son encontre dans ce monde, et cela t'empêchera l'accès au paradis, ou cela occasionnera une diminution de tes hasanats, de tes récompenses. Les actions que tu as accumulées seront amputées à cause de ces oppressions, etc., etc. Rappelez aux gens quelles sont les conséquences des fautes le jour du Qiyam. Parce que dans ce monde, chaque péché comporte un plaisir. Derrière chaque péché, il y a un plaisir. Demandez à celui qui boit de l'alcool quel plaisir il trouve, et il vous dira exactement qu'il y a tel maladha, il y a tel plaisir. Quelqu'un qui, na'oudhu billah, accomplit l'adultère, il vous dira également que pour lui, il considère qu'il y a plus de plaisir à changer de partenaire toutes les semaines que d'avoir une femme qui est fidèle. Ça, c'est les waswasa du shaitan et le piège qu'il y a à travers chaque péché. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui fait un péché, il est capable de défendre son carré, comme il va dire que oui, mais je fais ça parce que telle chose. Celui qui consomme de la drogue, il va dire que oui, je consomme, mais j'éprouve tel plaisir. C'est le plaisir immédiat, on appelle ça. Le plaisir immédiat qu'il y a dans chaque péché. Maintenant, le mu'min, il doit dépasser le plaisir immédiat. Parce que lui, il sait que son maladha, son plaisir, c'est le plaisir de l'au-delà. C'est la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder dans l'au-delà. D'où l'importance D'où l'importance de, si on a la possibilité, de faire un, de donner un nasiha, un conseil à une personne qui s'approche d'un péché, important de lui rappeler les principes concernant la crainte d'Allah et les principes concernant, on appelle ça muraqabatullah, le fait de penser à Allah. Il y a un thème qui m'échappe, subhanallah, al-ihtisab, le principe de ihtisab, le principe de se dire que les actions que j'accomplis maintenant, les conséquences ou les thawab, les hasanat, les récompenses, je ne les vois pas maintenant. Mais je dois avoir espoir en l'au-delà. Quand je fais une bonne action, j'ai espoir qu'Allah va me rétribuer. Donc, pour revenir au sujet du jour, lorsqu'on parle des bonnes actions et de leur récompense, le jour des comptes, on avait commencé donc ce chapitre en parlant d'un point essentiel qui se retrouve à travers l'accomplissement de chaque action et qui se trouve face, dans l'éloignement face au péché. C'est la crainte d'Allah, la taqwa Allah. Quand un mu'min a la crainte d'Allah dans son cœur, c'est un musulman qui sera choisi par Allah pour faire de bonnes actions. Quand un musulman a la crainte d'Allah dans son cœur, c'est un musulman qui sera capable, inshallah, de s'éloigner des tentations et des pièges de shaitan, des waswasa de shaitan. Il pourra s'éloigner des pièges de shaitan. Quand un musulman a la crainte d'Allah dans son cœur, inshallah, il aura la possibilité de contrôler son nafs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce musulman-là, inshallah, il est imparable. Il ne tombera pas dans les ruines, inshallah, à condition que les bonnes actions aient à la base la crainte d'Allah. Parce qu'une personne peut faire de bonnes actions, il le fait parce qu'on l'a enseigné comme ça. Parce qu'il a vu son papa ou son grand-père faire un namaz, ben il le fait. Parce que tout le monde a appris Coran quand ils étaient petits, il a vu tous les enfants prendre Coran, il a appris, il le lit comme ça sans réellement comprendre. Tandis que si à la base de nos actions il y a la crainte d'Allah, il y a l'amour d'Allah, il y a le ihtisab, l'espoir de rétribution, ce que je fais, j'aurai ma récompense auprès d'Allah. J'attends le jour où je rencontre Allah pour qu'Allah me rétribue. S'il y a cette base-là, ça c'est la base qui est saine, ça c'est la base qui est solide, ça c'est la batterie, ça c'est le moteur du musulman, la crainte d'Allah, c'est le moteur, le taqwa Allah, la crainte d'Allah, s'il y a ça à la base, alors les actions auront une portée extraordinaire. Et on ne risque pas de tomber dans les pièges de shaitan. Parce qu'il y a des gens qui font des actions de manière assez régulière. C'est presque comme une tradition que de faire ces bonnes actions. C'est une bonne chose, ils le font déjà, alhamdoulilah. Mais lorsque l'occasion leur est donnée de faire un péché, ou alors lorsque le péché se présente à eux, ils ont du mal à s'éloigner du péché. Qu'est-ce qui fait qu'un musulman fait ses 5 salats par jour et que lorsqu'il y a un péché, il ne peut s'en éloigner? Alors que dans le Coran, Allah dit « «Nassalat tatanha anil fahsha'i wal munkar». ». Normalement, la salat doit protéger, doit éloigner de la turpitude et du blâmable. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ses 5 salats régulièrement, logiquement, la personne doit être capable de s'éloigner des péchés. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait le namaz, parce qu'il l'a toujours fait sans réellement comprendre quel est le but, quel est le sens et qu'est-ce que je recherche à travers cette salat, et quelqu'un qui le fait avec conviction. Quelqu'un qui fait le namaz et quand il se prosterne, il sait exactement devant qui il est en train de poser son front. C'est quelqu'un qui a fait des recherches, il connaît son créateur, il connaît les noms et les sifats d'Allah, il connaît la grandeur d'Allah, il connaît la grandeur de la création d'Allah, il connaît, subhanallah, la puissance d'Allah, le pouvoir d'Allah, comment Allah il est clément, miséricordieux, pardonneur. Comment Allah en même temps il peut pardonner, mais comment Allah en même temps peut sévir également. Nabi ibadi an yanal ghafur rahim wa na'adhabi wa na'adhabul alim. C'est quelqu'un qui tout d'abord il est allé à la recherche de la connaissance pour connaître qui est son créateur. Ce qui fait que quand il fait sijda ama ma'adhim. Il sait qu'il fait sijda devant son Rabb, son Seigneur, son créateur, celui qui est au-dessus de tout. Alors qu'à côté de lui il peut y avoir une personne qui fait sijda, c'est comme on dit l'oiseau, le corbeau qui bec. Qui picore le grain, il fait, c'est une succession de gestes sans comprendre. Les deux ont fait namaz, mais ne comparons pas les namaz de ces deux personnes. Tout comme on ne peut pas comparer notre salat à nous, on va dire l'homme le plus pieux de cette assemblée, on ne comparera pas son salat avec le salat d'Abu Bakr al-Siddiq, de Umar ibn al-Khattab, de Uthman ou de Ali radiallahu anhu majma'in. Parce que les namaz c'est pareil, j'ai fait 4 faras isha maintenant. D'accord? Abu Bakr Siddiq, si on remonte la pendule à, allez, on va dire à 1480 années, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, à 14 siècles et demi, même époque, même heure, le 25e de l'Qa'ada, Abu Bakr Siddiq venait faire sa salat al-Isha. Combien de rakats il a fait? Il a fait 4 rakats comme nous. Il n'y a pas de grande différence. Et lorsqu'il faisait la salat, Faraz, d'autant plus en congrégation, il est sunna de ne pas lire trop long. C'est une lecture qui était proche des lectures que nous faisons maintenant. Et qu'est-ce qu'il lisait dans la salah? Des versets cachés? Non, la même chose que nous. Le Fatiha, les sourates, les Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, al-Tahiyya, etc., etc. C'est-à-dire une salah qui est identique. Dans la forme, elle est identique. Mais dans le fond, c'est le ciel et la terre. Parce que derrière leur salat, eux, il y avait une crainte d'Allah. Il y avait une puissance de foi, une puissance de iman qui démarquait ces gens-là de nous. D'où l'importance de cultiver la crainte d'Allah dans nos cœurs plutôt que d'aller vers une multitude de bonnes actions sans réellement comprendre le sens. Allons vers l'essentiel, développer l'amour pour Allah dans notre cœur. Un, développer la crainte d'Allah dans notre cœur. Ça, c'est extrêmement important. Et le troisième point, l'ihtisab, l'espoir. L'espoir, en français, dit espoir fait les imbéciles. Mais dans le dunya, oui. Quelqu'un qui espère avoir, un jour je vais être riche, un jour je vais avoir l'honneur, etc., c'est peut-être un imbécile. Ou alors même s'il l'aura un jour, il sera imbécile quand même. Parce que ça n'apportera strictement rien. Mais quand on dit l'espoir, l'ihtisab, dans le terme de notre dîn à nous, c'est l'espoir qu'Allah rétribue, c'est la conviction. C'est la conviction que ce que je fais là, je vais le voir là-haut. Le sacrifice que je fais, mes amis, ils sont tous partis en boîte ce soir. Ils sont tous partis s'amuser. Je suis seul à la maison, je m'ennuie, je regrette, j'ai des remords, j'aurais peut-être dû me joindre à eux. Ils vont se dire que moi, je ne suis pas comme eux, je suis en décalage, je suis arriéré, je suis archaïque, préhistorique, tout ce que je veux. Mais, dans ma tête, je sais que par rapport à ce sacrifice-là, Allah va m'accorder quelque chose d'énorme. Lorsque le prophète dit que celui qui délaisse « Man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khayran minhu » celui qui délaisse quelque chose pour Allah, j'ai un péché qui est là maintenant. Et personne ne m'en empêche, personne ne me voit, personne ne peut me faire une remarque non plus. Et le péché est accessible, mais je ne le fais pas. Pas parce que Moulissa Bivaye à moi, hein? Pas parce que Moutawali regarde à moi, pas parce qu'un tel, ça rapporte mon grand-père, ça a fait le M pour dire que oui, un tel après Allah, il a fait ça, il a été actifié dans la rue. Pas à cause de ça. Parce que j'aime Allah et j'ai la crainte de mon Seigneur et que j'ai honte de désobéir à Allah. Ça, c'est l'iman des Sahaba, ça, c'est la réaction des Sahaba. Et c'est vers ces valeurs-là que nous devons revenir. Parce que ce qui se passe très souvent, et on a déjà dit plusieurs fois, vous avez peut-être un jeune qui a été éduqué. Il a fréquenté les bancs de la madrasa, il a été hafidh al-Quran, il a tout ce qu'il faut. Quand on regarde, mashallah, c'est parfait. Il a peut-être même fait salat al-Tarawih. D'accord ? Vous l'envoyez en France faire ses études, quand il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de molissab, il n'y a plus de masjid aussi. Très souvent, dans certaines régions, il n'y a pas de masjid. Ou alors c'est très loin. Il n'y a pas d'environnement religieux. Il n'y a pas de musulmans qui vont à la salah. C'est-à-dire, il n'y a personne. On l'a lâché dans la jungle. On l'a lâché avec des péchés qui ne lui étaient pas accessibles avant. Ou alors peut-être il y pensait, mais vu qu'il appartient à une grande famille, il habite Montreuil, avec Zaraboto, où il habite centre-ville, il ne peut pas prendre l'antine marche de la rue Maréchal Leclerc. C'est pas possible. Et qu'après il rentre dans la masjid, vu son statut. Qu'il est hafidh al-Qur'an, des grandes familles, tralala, tralala. D'accord? Mais quand il est lâché, c'est là qu'on voit ce qu'il y a de le fond du iman, de le fond du cœur. Et si on n'a pas travaillé ce cœur, si on n'a pas inculqué réellement les valeurs de la foi, alors aussi longues que les bancs peuvent être, aussi performant on peut être dans notre révision du Coran, même si on lit des versets magnifiques d'une voix que les gens s'exclament et qu'on n'arrive plus à se... On ne peut plus comprendre comment la personne lit bien, mais si dans le fond, à la base, il n'y a pas la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'espoir de rétribution, al-iman bil-raib, la conscience que je vais mourir et je vais rencontrer mon Seigneur et je vais rendre compte de tout ce que je fais, alors il y a toutes les raisons de craindre pour cette personne. Plus elle avance, plus elle risque d'être perturbée, d'être troublée par Shaitan. Donc, on s'est étalé un petit peu. Pour revenir à ce qu'on disait, la taqwa, ces trois points sont essentiels. Quand j'ai la taqwa, je fais des bonnes actions. Et quand on commence à faire des bonnes actions, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enchaînement. Quand Allah voit qu'un serviteur essaie de se rapprocher de lui, Allah le rapproche de plus en plus de lui. Hadith très connu, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Cette métaphore veut dire quoi? Quand Allah voit qu'une personne est sincère. Et pour être sincère, il n'y a pas besoin d'être un grand cheikh ou le hadith. Il n'y a pas besoin d'être un mufti, d'être un alim, d'être un grand personnage. Il suffit d'avoir le cœur pur. Il suffit vraiment. Je me dis qu'aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui je ne fais plus le zina, c'est fini, je sors plus, j'ai lâché ma copine et je me suis dit qu'aujourd'hui c'est fini, je ne vais plus essayer d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais rester, Inch'Allah, dans le droit chemin concernant le jins, les shahawat, les plaisirs, les passions. J'arrête de boire, j'arrête de faire telle chose. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je fais niyat qu'à partir de demain, je viens tous mes salats à la masjid, en congrégation, je respecte mes parents, etc., etc. C'est-à-dire quand quelqu'un, il prend ses résolutions, mais avec sincérité, avec présence de cœur et d'esprit, il se dit que aujourd'hui je vais opérer un changement total dans ma vie. 360 degrés, je retourne Inch'Allah vers Allah et j'arrête toutes les bêtises. Ben ça c'est un cœur qui est sincère. Et s'il fait les efforts, l'intention est là, mais si en plus il met les chances de son côté, de un, il va téléphoner à sa copine pour dire que c'est fini, on ne se fréquente plus, déjà un, il connaît ses amis qui l'entraînent en boîte tous les soirs, le samedi soir, il coupe les relations avec eux, même si c'est des musulmans, il coupe les relations avec eux, parce qu'il sait que c'est avec eux qu'il sera dans le mauvais chemin. Il se rapproche de ses parents, il va voir ses parents, il fait un premier pas, même si ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus, il fait un premier pas, il va faire le khidma, il va demander tawbah, il va demander pardon, etc. Il essaie de construire sa relation avec Allah par le biais des différentes actions. Mais quand Allah voit que cette personne commence à travailler son iman, cette personne se manifeste, il essaie de se rapprocher de lui, ben Allah Ta'ala, il ramène cette personne immédiatement. Vous faites un pas, Allah fait deux pas vers vous. Et jusqu'à la fin de ce long hadith, dit que lorsqu'une personne vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en harwala, en courant. Ça c'est une métaphore, ça. C'est une image. Dire que faites quelques pas vers Allah, vous allez voir comment Allah vous accepte. Mais il faut qu'Allah voit la sincérité et les efforts. Il y a deux choses. Sincérité, vous le voulez vraiment. Et deuxième chose, l'effort. Et quand il y a ces deux notions, on ne regarde plus le passé. On ne regarde plus qu'est-ce qu'il a pu faire dans le passé. Même si c'était quelqu'un qui a fait les 400 coups, les 4000, les 400 000 coups, on va dire. Si c'est une personne qui, durant 20 ans, tous les samedis soirs, il allait en boîte, il buvait de l'alcool, il faisait zina. Une fois par semaine pendant 20 ans. Et qu'à un moment de sa vie, il y a eu un déclic. Il y a eu un retour de iman. Il a eu tawfir de demander tawba, mais avec sincérité, Allah est capable de tout pardonner. Il y a des hadiths magnifiques hein, dans Fadhail al-Hajj et tout. Il dit que quand quelqu'un revient vers Allah, même si ses péchés sont supérieurs au adad al-ramli, le nombre de grains de sable qu'il y a dans le désert, ou le nombre de gouttes de pluie, ou les écumes des mers, même si les péchés sont supérieurs à ça, et qu'il vient vers Allah avec un cœur pur, il veut se racheter, Allah Ta'ala l'accepte. Allah Ta'ala est capable de le pardonner. Ça veut dire que se rapprocher d'Allah, le message qu'on peut retenir, qu'on doit retenir et qu'on doit faire passer, se rapprocher d'Allah, ce n'est pas réservé à une élite. Je ne suis pas obligé d'avoir une grande barbe, d'avoir des diplômes, d'être hafiz al-Qur'an, d'être descendant de grandes familles, ou que j'étais masjid depuis l'âge de 7 ans jusqu'à pour être proche d'Allah. Non. N'importe qui, du jour au lendemain, peut devenir un waliyullah, un ami, un proche d'Allah, si le cœur y est. Si le cœur y est, si l'intention y est, cœur et intention, et si les efforts sont faits, on peut se rapprocher d'Allah. Parce qu'Allah il est karim, Allah est généreux. Allah, subhanallah, il y a un hadith qui dit que Allah est plus satisfait de son serviteur qui demande tawbah, qui revient vers lui, que cette personne qui était dans le désert, qui a perdu sa monture, et qui tout d'un coup, il voit que la monture revient. Et il est tellement euphorique qu'il dit que, il remercie, il dit des paroles de shirk. Il dit, je remercie Allah, tu es mon serviteur, je suis ton créateur. C'est un hadith très connu, ça. C'est-à-dire, tellement la personne est euphorique, il est content de retrouver sa monture. Parce qu'il sait que sans sa monture et provision, il meurt, il va mourir de faim et de soif. Et quand il revoit sa monture, il sait plus quoi dire, tellement il est heureux. Mais Allah est encore plus content, c'est une image, hein, un exemple d'une personne qui revient vers lui, quelqu'un qui était dans le péché pendant longtemps, que cette personne ne pouvait pas s'en sortir. Puis du jour au lendemain, la personne décide de se racheter avec sincérité, Allah Ta'ala accepte cette personne. Maintenant, c'est pas comme quelqu'un qui programme ses péchés, hein. Attention, parce qu'Allah sait ce qu'il y a de le cœur. Quelqu'un dit, écoute, je fais tout ce que j'ai à faire jusqu'à 40 ans. 40 ans, arrête la boîte de nuit, laisse sa barbe grandir, m'y marier et m'y reste dans ma djid. À 60 ans, m'y prend ma retraite, mon barbe devient blanc et m'y prend un chaise, m'y reste là jusqu'à la mort. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, nous voyons la différence à travers le hadith qu'on va développer soit aujourd'hui, soit prochainement. C'est qui l'élite le jour de Qiyam? L'élite, le jour de Qiyama, c'est qui? C'est ces personnes qui, dès quand le hisab commence, dès quand les comptes commencent, ils sont appelés. Cette catégorie de personnes. Ils sont appelés où? Sous le trône d'Allah. Sous l'ombre du trône d'Allah. Et parmi ces gens-là, il y a qui? Shabun nasha'a fi ta'atillah. Un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui dit je fais mes erreurs, je fais tout et après je me rachète, Allah me pardonnera. Allah il sait ce qu'il y a de l'éclair. Et quelqu'un qui a passé sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Différence. Et le jour de Qiyama également, le jour des comptes, il y a une différence. C'est-à-dire que c'est dès maintenant qu'il faut faire des efforts. Si on est encore jeune, alhamdoulilah, on peut avoir notre place sous le trône d'Allah dès maintenant, dans notre jeunesse. Si la jeunesse est passée, il y a d'autres moyens pour se rattraper, pour devenir proche d'Allah. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que être proche d'Allah n'est pas réservé à une élite. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir passé par l'ENA, ou il n'y a pas besoin d'avoir fait je ne sais pas quelles études, des grandes écoles. Non, c'est accessible à chaque musulman. En l'espace d'une nuit, quelqu'un peut se rapprocher d'Allah. Il se lève Qiyamul Layl, il fait son wuzu, il pleure sur ses péchés, il demande pardon pour chaque péché avec sincérité, avec désir de se rapprocher d'Allah, il n'y a de ne plus jamais le recommencer, et il prend de bonnes résolutions du jour au lendemain, cet homme peut devenir un muttaqi, quelqu'un qui a la crainte d'Allah dans son cœur. Ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que la tranquillité du cœur, ça c'est quelque chose que tout le monde veut, ça. Il n'y a pas de prix, ça, la sakina de le cœur. Un cœur apaisé, un cœur tranquille. Ça, c'est réservé à ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur et qui ont compris la ilaha illallah et qui le mettent en pratique et qui font les bonnes actions. Ces gens-là, Allah Ta'ala dit au Coran, « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn. » Al-amn, c'est quoi? C'est la tranquillité, la sécurité, la sakina. C'est-à-dire que ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur, là, ils ont la tranquillité de leur cœur. Et cette tranquillité-là, il y a des gens qui le recherchent à travers les biens, à travers les constructions, à travers parfois les choses illicites. Il y a des gens qui essaient de trouver la tranquillité par le biais des stupéfiants, par le biais des plaisirs. Ils vont acheter des yachts, ils vont aller à tel endroit, ils vont essayer de faire des choses grandioses en recherchant la joie, le bonheur. Mais le réel bonheur, c'est dans la spiritualité, dans la relation avec Allah. Aussi riche on peut être, aussi célèbre, aussi comblé des bienfaits terrestres, à un moment donné, on s'en lasse. Demain, notre frère achète une Ferrari, Inch'Allah. D'accord? Il achète une Ferrari, il va être content un jour, deux jours, une semaine, un mois, deux mois. À un moment donné, ça deviendra un véhicule, tout simplement. Et il aura beaucoup de soucis avec. Yani, le dunya n'a pas cette sifat de al-amn. Le dunya n'apporte pas le amn. Ça, c'est quelque chose qu'on doit bien intégrer. Les palais, les palaces, les châteaux, les montures, par analogie, les voitures, tout ce qu'il y a comme bienfait, n'ont pas cette possibilité d'apporter al-amn wa hum muhtadun. C'est que la ilaha illallah, avec ses arcanes, avec ses conditions, avec la mise en pratique, qui peut apporter la tranquillité dans le cœur des gens. On avait donné des exemples il y a longtemps, hein, mais c'est un rappel. Il y avait une chanteuse très connue, une anglaise, une américaine, peu importe, c'est pareil. Elle est très connue, elle était, subhanallah, parmi les plus riches et les plus célèbres. Tellement, elle n'en pouvait plus, elle s'est rasée la tête de l'émotion devant les gens. Et c'est quelqu'un qui a pété les câbles. Elle a fait une dépression nerveuse, s'est rasée les cheveux, c'est-à-dire elle a quitté la scène complètement. On pourrait donner l'exemple de footballeurs qui se sont drogués, l'exemple de et plein d'exemples de personnes qui ont atteint, à nos yeux, hein, le summum en termes d'argent, de richesse, de célébrité. C'est tout ce que les gens veulent. Ils veulent être riches, être reconnus, être célèbres, être aimés, être adulés. Ces gens-là, ils ont atteint le summum. Mais atteint le summum, ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus rien après ça. Et qu'à un moment donné, on finit par s'ennuyer ou s'enlacer, et on ressent qu'il y a un manque dans le cœur. Et la seule chose qui peut combler le manque, c'est, qui peut apporter la tranquillité, c'est la ilaha illallah et la mise en pratique de la ilaha illallah. Donc, cette tranquillité, c'est pour le mu'min dans ce monde, c'est pour le mu'min au moment de mourir. Quand on parle de la mort, quelqu'un qui n'a pas la foi, il a peur. La mort, c'est un sujet tabou. Les gens, ils ont peur de la mort, ceux qui n'ont pas iman. Tandis que pour le musulman, man ahabba liqa Allah, yahabba Allahu. L'iqa'a, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Ça veut dire quoi? Dire que le musulman qui attend le moment où Malik al-Maut va reprendre son âme, parce qu'il sait que quand je quitte ce monde, je retourne vers mon Créateur. 50 ans de namaz, de prière, c'est hajj, c'est umrah, c'est le Coran, tout ça je vais les obtenir auprès d'Allah. Enfin, ça c'est
la mort qui est une délivrance pour le musulman. Cette prison, il sort de cette prison et il va vers son créateur et son paradis. Donc cette tranquillité-là, on l'a dans ce monde, on l'a au moment de quitter le monde. Le moment de quitter ce monde, c'est le pire des moments pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Il ne veut même pas y penser. Il ne veut même pas penser à la mort. Il veut profiter, mais qu'on ne lui parle pas de la mort parce que ça lui fait peur. Mais le musulman, il attend ce moment parce que c'est ce moment-là où il va rencontrer Allah. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ce musulman qui reçoit la bonne nouvelle, il va mourir, l'ange vient et dit que tu es parmi les élus, tu fais partie des gens qui sont aimés par Allah, et il présente à ce musulman la paix, le salam d'Allah. C'est pas ça la consécration? Quand on meurt, l'ange de la mort vous présente des salams d'Allah et qu'Allah est satisfait de toi. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ça, c'est la sakina qu'Allah met dans le cœur du mu'min qui se rapproche de lui. Et cette sakina-là, on le retrouve également le jour de Qiyam. Ya ibadi, la khawfun alaykum al-yawm. Voilà, antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Hein, cette nouvelle qui sera donnée aux serviteurs d'Allah, qu'aucune crainte en ce jour pour vous, et ne soyez pas attristés. C'est-à-dire que le jour de Qiyamah, le musulman aura le cœur apaisé. Ceux qui n'ont pas iman, Allahu Akbar, ya laytani kuntu turaba. Il y a des gens qui vont dire, si j'aurais aimé être réduit en poussière. Il y a des koufars qui vont souhaiter ne jamais avoir été créés même. Alors que dans ce monde, ils marchaient la tête haute, le torse bombé, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient. Ils se moquaient impunément des musulmans, pour eux c'était des arriérés, des gens qui sont en décalage. Lisez les sites islamophobes, lisez tout ce qu'ils se disent. Dans le sourate al-Mutaffifin, inna alladhina amanu, si quelqu'un peut faire retrouver l'ayat, kanu min alladhina yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun. Ils se moquaient, c'était à l'époque, mais le jour c'est pareil. Relisez Hayat al-Sahaba. Relisez comment les gens se moquaient des musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Comment les gens faisaient du tort aux musulmans. Mais à notre époque, quand on lit des sites islamophobes, quand on entend des choses, ça nous touche. Mais c'est la même chose qui se passe. Mais le jour de Qiyamah, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. C'est le contraire maintenant. Al-Yawm, c'est quoi? C'est le jour des comptes. Là, le mu'min, c'est lui qui rit. C'est lui qui est apaisé. Et c'est celui qui se moquait de lui, qui l'insultait. C'est eux qui auraient souhaité maintenant être réduits en poussière. Donc cette tranquillité dans ce monde, au moment de quitter ce monde, et dans l'étape ultime, dans l'étape de l'au-delà. Et on avait rappelé également la dernière fois que la recette c'est quoi? Man ya'mal min as-salihat wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Pour avoir tout ça, il y a deux choses. C'est-à-dire la foi, et juste avant ça, c'est cité, l'accomplissement de bonnes actions. Ce sont les deux conditions. La foi en Allah, mais la foi sincère, correcte comme il le faut, et les bonnes actions. Avec ça, ça c'est la recette du bonheur. Et on avait expliqué également, c'est un hadith magnifique, hadith Qudsi. Lorsque la Ta'ala dit, « Wa izzati wa jalali la ajma'u li abdi amnayni wa la khawfayn » Allah Ta'ala jure par sa grandeur, par sa clémence, par son honneur, qu'il ne donne pas deux tranquillités ni deux craintes à une même personne. Si quelqu'un vit tranquillement dans ce monde sans la crainte d'Allah le jour de Qiyamah, alors le jour de Qiyamah cette personne ne pourra avoir la tranquillité du cœur. On répète, si quelqu'un vit dans ce monde le cœur tranquille, pour lui il ne se fait aucun souci, halal, haram, tout est pareil, il n'y a pas la crainte d'Allah, il n'y a rien, il vit comme il veut, liberté totale. Il fait ce qu'il veut, quand ça lui plaît, personne ne lui dit quoi que ce soit, pas de contrainte. Pour lui, il est libre. Mais celui qui se sent libre, le cœur tranquille, léger, le jour de Qiyamah, il ne pourra jamais avoir le cœur léger. Impossible d'avoir le cœur léger ici et là-haut. Et celui qui a la crainte, qui vit avec la crainte d'Allah dans son cœur, impossible que le jour de Qiyamah, il ait une quelconque crainte. Ça veut dire que celui qui vit avec la crainte d'Allah dans son cœur a la garantie d'avoir le cœur léger le jour de Qiyamah. A la garantie d'avoir la tranquillité dans son cœur le jour de Qiyamah. Tandis que celui qui vit comme un animal avec ses passions, ses pulsions, impossible qu'il soit heureux là-haut. Impossible. C'est la promesse d'Allah. Assurément qu'il aura des difficultés le jour du Qiyamah. Et dernier point, ce qu'on avait cité, en résumé, que chaque personne a un degré. Et on atteint notre degré, ce degré, en fonction de notre taqwa, si on expliquait. Et puis, à travers les a'mal, hein, vous savez qu'il y a différentes portes dans le paradis. Et chaque porte correspond à une action. Chaque porte correspond à une action. Donc il y a des personnes qui vont exceller dans certaines actions. Il y en a qui vont donner plus de sadaqa, il y en a qui vont lire plus le Coran ou qui vont faire plus telle action. Maintenant, la question qu'on peut se poser, je me pose la question à moi-même, moi, dans quelle action je me démarque? Parce qu'il faut se démarquer dans une action. On va dire namaz, ben namaz, tout le monde le fait. 5 namaz. Est-ce que je fais partie des gens qui font qiyamul layl, tahajjud tous les soirs, pour avoir l'espoir que je de qiyama, je vais me distinguer par cette action et entrer dans le paradis par cette porte? Voilà, est-ce que je fais partie des gens qui donnent une grande partie de leurs revenus en zakat, en sadaqa, qui aident le prochain? C'est-à-dire qu'il faut essayer, on fait ce qu'il y a, la base commune, les actions, mais essayer de faire beaucoup, de faire le maximum dans une branche de la foi. Et le prophète Sassam une fois avait demandé au Sahaba un matin, man minkum, la question, qui parmi vous a donné à aider son prochain? Abu Bakr a levé le doigt. Qui parmi vous a assisté à un janaza? Abu Bakr a levé le doigt. Qui parmi vous a rendu visite à un malade? Abu Bakr a levé le doigt, etc., etc. Chaque action, Abu Bakr a levé le doigt. C'est-à-dire en une matinée, il avait déjà fait la plupart des bonnes actions qu'on pouvait imaginer. Ça, c'est ce qui fait que le prophète sallam annonce à Abu Bakr que lui fait partie des gens qui sont appelés par toutes les portes du paradis. Donc, c'était une petite introduction, un petit rappel sur ce chapitre extrêmement important, les bonnes actions et leur récompense au jour de Qiyama. On en a 30 minutes, on va s'arrêter, Inch'Allah. Les bonnes actions et leur récompense au jour de Qiyama. Et cette introduction nous permet, Inch'Allah, de déboucher sur un sujet, un hadith qu'on va essayer de traiter avec, Inch'Allah, un peu de détails dans les semaines à venir. C'est le hadith qu'on a cité tout à l'heure, très connu, les 7 personnes qui seront appelées sous le trône d'Allah le jour de Qiyama. Pourquoi on commence par ces 7 personnes? C'est parce que c'est le grade le plus élevé, le plus exceptionnel. Être invité par Allah pour être sous l'ombre de son trône. Et sous l'ombre de son trône, à quel moment? Au moment des comptes, quand le soleil est déjà au-dessus des têtes. Quand les gens sont déjà dans les souffrances de l'au-delà, Allah Ta'ala appellera 7 catégories de personnes. Donc ça, c'est en introduction du chapitre concernant les bonnes actions et leurs récompenses. Donc on va voir quelles sont les récompenses de celui qui a été un dirigeant, celui qui a été un dirigeant on dirait juste. On va voir quelles sont les récompenses d'un jeune qui a passé sa jeunesse de l'obéissance d'Allah. On va voir donc quelles seront les récompenses de quelqu'un qui avait le cœur attaché à la masjid, quelqu'un qui aimait la masjid, qui ne se sentait bien qu'à la masjid. On va voir également quelles sont les récompenses de personnes qui s'aimaient par amour pour Allah, avec sincérité, pas par intérêt ou parce que lui peut me procurer telle chose, non, qui étaient sincères de leur relation. Également la récompense de celui qui donnait dans le chemin d'Allah sans que personne ne savait qu'il donnait, quelqu'un qui donnait avec sincérité. Et également quelqu'un, on va voir quelles sont les récompenses d'une personne qui faisait le dhikrullah et qui pleurait par amour et par crainte d'Allah. Et également, qu'on a pas cité, une personne qui s'éloignait du péché. Quelqu'un qui reçoit des avances d'une jolie femme, qui est belle, qui a tout ce qu'il faut pour attirer un homme, et il peut avoir des relations illicites avec cette personne, personne ne lui empêche, mais la seule chose qui fait qu'il ne le fera pas, c'est la crainte d'Allah. Et on va voir quelles seront les récompenses de ces 7 personnes, 7 catégories de personnes, le jour des comptes, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, on a à notre disposition, il y a un ouvrage magnifique. C'est en 2 volumes, ça s'appelle Tartibul Afwahi Bidhikri Man Yudhilluhum. C'est un livre qui a été écrit par une personne que je ne connais pas, c'est un contemporain docteur qui s'appelle docteur Sayyid bin Hussein Al-Affani. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a fait un khidmat extraordinaire du dîn. Il a écrit sur ce hadith, il a écrit un kitab, une compilation de 2 volumes. Hein, ce premier volume-là comporte, pas combien de pages, hein, il y a 491 pages, le deuxième est un petit peu plus gros, on va dire 500 pages. C'est-à-dire qu'il a écrit 1000 pages pour commenter un hadith. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment ce genre de personne. Et c'est un contemporain. C'est quelqu'un qui, quand il n'y a pas la date de décès, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Et il y a des gens qui ont été choisis par Allah pour faire le khidmat du din. Il y a des gens qui ont été choisis par Allah pour faire le khidmat du ilm, de la science religieuse. Et donc, chaque parole qu'on va lire de ce livre, Inch'Allah, ce sera une source de récompense pour cette personne également. Donc, ce qu'on doit retenir, mes chers frères, c'est nous devons de faire des efforts pour nous rapprocher d'Allah avec ces 3 points-là. tout ce que, à chaque fois, nous devons avoir l'amour pour Allah dans nos cœurs, la crainte d'Allah dans nos cœurs et l'espoir qu'Allah va me rétribuer, et ne jamais, jamais oublier qu'un jour, je reviens auprès d'Allah. D'où l'important de développer le thème du al-hisab, les comptes. Tout ce que je fais, ça a une relation avec les comptes. Qu'Allah nous accepte, nous t'en fait de comprendre, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et Inch'Allah, n'oublions pas également que d'ici une dizaine de jours, ou dans deux semaines à peu près, hein, nous allons vivre les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et ce sont là les 10 meilleurs jours, selon la majorité de l'ulama, les 10 meilleurs jours de l'année. D'où l'importance, dès maintenant, de programmer nos bonnes actions. Si quelqu'un veut faire le niyyah, de jeûner les 10 jours, alhamdulillah, hein, à l'exception du jour du Eid, bien sûr, les 9 premiers jours, on fait le niyyah, on essaie de faire le maximum de a'mal ou saliha durant ces 10 jours. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.